写真一个。
Non mais ça va.
Je pensais pas que ça commencerait comme ça, mais. Quand c'est comme ça, c'est qu'il y a quelque chose.
Je sens qu'il y a une tension.
Tu sais quoi? Il sentit la même chose. La même chose.
Culte, ce temps de célébration, ce temps de fête, il a déjà bien commencé en extérieur, presque à la fraîche encore, grâce à cet été qui nous a gratifié d'un formidable petit déjeuner. Et mon petit doigt me dit que ce n'est pas tout, nous y reviendrons dans quelques instants. Quelques mots sur le déroulement de ce culte. Nous allons prendre un temps d'adoration avec l'équipe musicale qui a préparé ce moment et il y aura quelque chose tout spécialement pour les enfants. Et Xavier, qui a un cœur pour les enfants, a préparé quelque chose aussi pour vous et pour nous. Hein, qui peut le moins, peut le plus. Nous prendrons un temps de méditation autour de la parole de Dieu. Nous aurons un second court moment de louange, puis nous partagerons le repas du Seigneur. Avant de nous quitter, et j'espère quand même de partager encore un moment autour du café. Puis avant d'entrer dans ce culte à proprement dit, nous avons l'une ou l'autre annonce à passer, et puis aussi une main d'association à donner. Pour les annonces, je vais appeler Maïka, qui s'est un peu ennuyée ces dernières heures. Reprends juste ta respiration, viens Maïka. Non, t'as pas de chaussures. Comme ça, si jamais on l'avait pas remarqué, on le remarque maintenant. Mais ça tombe bien avec le texte du jour.
Parfait, parfait. Bon, du coup, pour les tresses, j'ai juste les infos. Donc, ceux qui ont commandé des tresses,
qui ont commandé des tresses, donc elles sont là-bas, vous pourrez les récupérer après. Si jamais on a quelques tresses de 250 grammes, donc si jamais ceux, il y avait 2-3 commentaires sur qui voulaient des tresses plus petites, donc les, voilà, si vous êtes intéressé, premier là, premier servi. Si vous n'avez pas, si vous n'êtes pas inscrit pour des tresses, on en a en plus, donc n'hésitez pas à venir nous demander à la fin du culte. Et donc voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup.
Merci, et je vous propose juste qu'on félicite l'équipe cet été. Venez les jeunes du cet été, approchez-vous. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je nous rappelle que nous avons à cette occasion la possibilité d'exercer notre générosité en soutien pour le CTT. Je crois qu'une petite boîte a été prévue pour l'occasion. À ma connaissance, la dernière tresse a fini de cuire aux alentours des 2 heures du matin. Donc si jamais l'un ou l'autre s'endort pendant le culte, merci de faire grâce. Nous aurons mardi soir à 20h15, ici même, enfin dans la salle du CTT, justement, une rencontre de prière communautaire. Bienvenue à chacun, à chacune pour ce temps de prière. C'est des moments importants quand nous prions ensemble. Jeudi soir à 19h15, nous avons une rencontre du Conseil. Vendredi soir à 17h, nous avons la dernière du KT avec une soirée un peu festive. Et puis nous nous retrouvons dimanche prochain pour le culte avec Célina. Je serai pour ma part à l'église du CEP à Prefsin. Nous aimerions donner une main d'association maintenant, une forme de bénédiction pour nos amis Mathieu et Pauline. Puis je vous demande de vous approcher. Comme d'habitude, Mathieu nous a préparé un truc piccolo bello en plus du PowerPoint que vous allez voir tout à l'heure. C'est une grande période de changement pour vous. Vous nous en dites quelques mots ?
Oui.
J'espère que tu dis oui, si tout d'un coup tu dis non. Enfin, non.
On ne peut plus maintenant. Voilà, bonjour à tout le monde. J'ai préparé un petit truc, mais je ne suis pas sûr que ce soit hyper clair. Donc si vous ne comprenez rien, vous levez la main et vous dites « Mathieu, j'ai rien compris ». Donc bonjour à tous, aujourd'hui on va vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans nos vies, dans notre vie. L'année prochaine, je l'ai déjà annoncé lors d'un colloque, on va partir à Madison, Wisconsin, États-Unis, parce que j'étais engagé là-bas par l'université pour étudier la fin de mon master et pour enseigner le français. Du coup, je vais partir personnellement mi-août et revenir quelque chose comme début mi-juin, quelque chose comme ça.
Oui. C'est la voix du 2h du matin. Donc on va partir les deux à Madison et pour ce faire, voilà, donc ça fait depuis février que je sais, il s'est passé beaucoup de choses entre février et maintenant. On aimerait vous annoncer aussi qu'on célèbre notre mariage à notre retour, auquel vous êtes tous cordialement invités. Vous pouvez réserver votre 9 septembre, donc oui, on fait les choses à l'avance. Donc, 2023, ouais. Ça va être un peu compliqué de faire ça par Zoom, même si maintenant on a l'habitude. Donc comme je vous ai dit, tout s'est passé très vite depuis février. Du coup, depuis 2 semaines, il y a Pauline qui a perdu quelque chose. Elle a perdu son nom de famille, elle l'a laissé traîner par terre. Du coup, je lui ai donné le mien. On s'est mariés civilement il y a 2 semaines. Quoi, c'est drôle, non ?
Oui, c'est drôle.
Donc voilà, monsieur et madame Schmidt Junior, qui seront officiellement bénis devant vous tous l'année prochaine, le 9 septembre. Donc c'est aussi plus ou moins notre dernier culte avec vous tous, plus ou moins ça dépendra un petit peu de si on arrive à aller à Stuttgart ou pas voir Ludo la semaine prochaine, avant le culte de l'été. Donc c'est aussi non sans émotion qu'on se tient aujourd'hui devant vous. On vous tiendra bien sûr au courant de nos petites péripéties états-uniennes. Et peut-être qu'avec un petit peu de chance, on se reverra en décembre, vu qu'on a eu une sorte de billet gratuit. Puis on aimerait aussi profiter pour... J'aimerais deux qui rigolent avec un air de... Il n'a rien préparé, il sait pas. On aimerait en profiter pour vous remercier de votre amitié, de votre bienveillance, dans laquelle on a toujours grandi ici à Mérin. C'est tellement une bénédiction de pouvoir vivre entre des personnes qui s'aiment tout simplement. Et ouais, simplement. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Dis quelque chose, s'il te plaît.
Je dois dire quelque chose. Alors, c'est déjà la deuxième fois que je vous annonce que je pars, mais finalement, je reste toujours. Donc, à bientôt quand même. Non.
J'aimerais prier avec et enfin pour vous et remettre aussi ensemble le déroulement de ce culte. Cher Seigneur, ensemble, nous te prions pour Pauline et Mathieu. Nous te remercions d'abord pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils nous ont apporté jusqu'ici. Te remercier aussi pour leur union devant nos autorités. Et Seigneur, on te prie de faire reposer sur eux ta grâce et ta paix. Et on te prie pour cette étape importante, ce voyage, cette installation, cette intégration. Sois à leur côté, s'il te plaît, comme tu l'as été jusqu'ici. Tu vois encore la somme de démarches administratives à faire. Toi, Seigneur, tu sais... faire mieux qu'arranger les bidons. Alors nous te demandons de créer les circonstances pour que cette transition vers les États-Unis se passe du mieux possible. Et puis nous te disons que nous voulons te rendre un culte. Alors je te prie de nous permettre par ton esprit de te louer, de te rencontrer, de t'écouter, de t'obéir. Nous voulons t'honorer parce que tu en es digne. Reçois notre adoration. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
J'entends tout. Ah, c'est parfait. J'avais juste une petite chose à partager pour les enfants. Et puis... pour les grands-enfants aussi. Si les enfants veulent venir devant, c'est volontiers. Sinon, vous pouvez rester assis. J'avais envie de vous partager quelque chose qui m'est cher, parce que c'est mon travail. C'est vrai que c'est bizarre de dire mon travail est cher. Mais oui, c'est un lieu où je peux m'épanouir, et puis c'est un lieu où je peux voir Dieu agir à chaque moment. Et si on pourra mettre les images, ce sera volontiers. En tout cas, la première. Je suis paysagiste. Beaucoup de monde le sait. Et en fait, la chose que je préfère dans ce métier, c'est la taille. J'aime tailler les arbres, couper les arbres et les rendre un peu plus beaux. Et en fait, mon parallèle, donc la chose un peu différente où que j'arrive à me mettre à la place de Jésus... Ben c'est ça. Je suis un petit peu le tailleur, celui qui taille pour rendre l'arbre plus beau. Ou, si on peut faire la même chose, c'est rendre une personne meilleure. Comme Jésus, il vient vers vous, et puis vous pouvez grandir avec. Ben, et puis il vous forme, il vous aide à aller un peu de l'avant. Alors j'avais juste un peu cette image. Tu arrives à prendre l'autre d'abord? Voilà, en fait, c'est un peu ça mon métier. C'est toujours essayer de donner, voilà la première image à gauche, c'est un cyprès qui n'est pas du tout taillé. Et puis, bah, des fois, notre vie, c'est ça. On est un peu comme Sud-Gauche. On est éparpillé, on est un peu dans le fouillis. Et à un moment donné, ben, voilà, c'est un peu dans nos vies. On est un petit peu éparpillé dans plein de choses, dans nos choses à faire, nos activités, à l'école, où il y a des bagarres, où il y a plein de choses. Vous pouvez imaginer tellement de choses. Mais ce qui est génial avec tout ça, c'est qu'il y a une grande personne qui arrive, un Jésus, ou un gars qui arrive avec un sécateur, ou une grosse machine des fois, pour essayer de rendre l'arbre plus beau, puis leur donner une bonne direction. Puis on peut aussi donner aussi l'autre image. Voilà, alors c'est moi qui est en dessus, là, je suis tout au haut de l'arbre, je suis à environ 20 mètres de haut, attaché, bien sûr, pour ceux qui... Voilà. Voilà, donc le but, c'est de pouvoir regarder depuis où on est maintenant, de regarder l'arbre, et puis après, on doit s'imaginer. On doit s'imaginer déjà terminé. Et on doit être aussi, on dit, visionnaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit voir au-delà de ce que l'arbre va pouvoir être. Et ce qui est génial avec Jésus, c'est la même chose. Il a déjà nos plans, il a déjà le chemin qui est choisi pour nous. Et c'est ça qui est génial. Et ben, c'est à nous, après, de suivre ce chemin. Donc, un arbre, c'est pareil. Donc là, j'ai dû chercher, j'ai dû trouver les branches. C'est que j'ai pas le petit laser, ça aurait été cool, en fait. Et puis, à mon bon idée, ben voilà. Donc nous, on a un peu cette image à gauche. On est toujours aussi un petit peu, on part dans tous les sens. On a des branches sèches. On a des choses qui sont pas bien en nous, des péchés. Et puis, quand tout d'un coup, on commence un peu à tailler, ben voilà, les branches, elles tombent. Et c'est un peu la même chose pour nous. Ben, Dieu, il est en train de travailler dans nos cœurs, dans nos vies. Et puis, il y a des choses qui partent. Pour arriver à un final où on a l'impression qu'il n'y a plus rien, mais on a pu redonner une bonne direction à l'arbre. Et puis, on a pu, voilà, pour qu'il puisse s'épanouir, on a pu enlever toutes les branches qui sont sèches. Et puis, ce qui permet que l'arbre va pouvoir grandir, pouvoir avoir de la lumière. Et c'est ça qui est important. Et pour moi, l'image de la lumière, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vient en nous, et puis qui nous donne une vie, bah, qui nous fait rayonner, en fait, qui nous donne une bonne image. Donc c'est un peu ça que j'avais envie de vous partager. C'était aussi un encouragement pour vous dire, mais Jésus, il est là, il est présent, puis il a envie d'être dans vos cœurs, dans votre vie, de tous les jours. Et puis il ne faut pas hésiter à le demander, à lui parler, parce qu'il est là, il sera toujours là. Et il aime venir avec son petit sécateur, et puis tailler un peu les choses qui pourraient être ne pas bon, mais en fait aussi ce qui pourrait être bon. Donc dans vos vies, vous faites des belles choses, ben là, il est juste des fois juste corrigé pour pouvoir vous épanouir, en fait, dans votre vie de tous les jours. Et c'est ça, mon privilège que j'ai tous les jours quand je taille un arbre, c'est que Jésus, il me parle à chaque fois. Parce qu'à chaque fois, ben, je dois toujours réfléchir dans qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je pourrais faire. Donc c'est aussi un encouragement à tout le monde, en fait, parce que essayez d'imaginer ou des fois de voir un arbre, on en a des magnifiques juste à côté, des gros cèdres, des pins qui sont splendides juste là. Essayez d'imaginer, en fait, et vous comparer. Qu'est-ce que cet arbre... j'ai perdu mon mot, mais qu'est-ce que cet arbre, en fait, représente? Ou qu'est-ce que j'ai de parallèle, des fois? Essayez d'imaginer, des fois, quand vous ressortirez du culte, une fois, vous dites, ah, celui-là, il est un peu biscornu et tout. Ben, est-ce que dans ma vie, je suis un peu comme ça aussi, des fois? Comment Dieu, il peut me redresser, quoi? Voilà, c'était ça un peu cet encouragement aussi pour vous les enfants, parce que vous êtes dans cette nouvelle génération, on a besoin de vous aussi. Et puis, vous êtes géniaux, quoi. Alors, on va prendre aussi deux chants où on aura des gestes. Et j'ai sorti quelque chose qui peut être sympa. Ta-da-ta-da. Donc, si vous avez envie de faire du bruit, c'est pas grave. Donc là, il y a des maracas. Si vous avez envie de faire un petit peu de bruit, il n'y a pas de souci. Mais voilà, bagarrez-vous pas, ça c'est cool. C'est ça qui est chouette dans la famille. Et on a choisi deux chants pour vous qui parlent vraiment de venir devant Jésus. Parce qu'il est là, on a envie de le louer. On est là pour le louer, l'adorer. Alors, je vous invite à nous accompagner. Là, on voit que c'est à fond. Mais même les grands, si vous voulez prendre un maracas, bon, il y a les mains aussi, c'est aussi pas mal. Alors. Ouais. Merci Jésus pour qui tu es encore et merci parce que on peut encore venir à toi dès le matin. Et je me réjouis de pouvoir encore louer ton nom ensemble, de venir devant toi et te louer. Alors je vous invite à vous lever pour ces deux chants qui... Ensemble d'un même cœur, viens avec moi, louez-le-moi. Viens avec moi, fais le bon choix. Il est ton sauveur, il est ton Seigneur. Chantons-le ensemble d'un même cœur. N'attends pas demain, frappe dans tes mains, pousse un cri de joie pour le roi des pas danser, tu peux même sauter pour le célébrer. Viens avec moi, louer le roi. Viens avec moi, fais le bon choix. Il est ton sauveur, il est ton Seigneur. Chantons-le ensemble d'un même cœur. Viens avec moi. Ensemble d'un même cœur. N'attends pas, n'attends pas demain. Frappe dans tes mains, pousse un cri de joie pour le roi des rois. Tape avec tes pieds, pourquoi pas danser. Tu peux même sauter pour le célébrer. Tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom. Du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom. Merci, merci pour ce que tu as fait dans nos vies, ce que tu tu as fait pour chacun d'entre nous. Et nous célébrons ta victoire ce matin. Merci Père pour ces enfants qui sont parmi nous. Merci parce que tu les as choisis. Merci pour cette joie de pouvoir être en famille comme ça. Pour moi, c'est un cadeau de voir ces enfants te louer avec ces instruments. Et je veux te les bénir, te demander de les bénir, les conduire, les garder toute leur vie. Et je te remets vraiment maintenant ce moment où ils vont pouvoir vivre un petit temps avec toi, avec l'école du dimanche. Tu puisses aussi parler à leur cœur et qu'ils puissent ressortir, toujours grandir et connaître un petit peu plus. Alors je vous invite à pouvez aller dans vos groupes. Vous pouvez reposer vos instruments dans la corbeille. Soyez bénis. Et soyez bénis aussi les moniteurs. Restons aussi dans cette présence, dans ce temps avec notre Père.
Me voici. grâce illimitée. Me voici conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau, car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice.
Majesté, majesté.
majesté. Majesté.
Par ton amour.
Par ton amour, je suis transformé. En présence de ta majesté.
Revoyons ces images encore comme tout à l'heure où on voit que ouais, on peut être vraiment dans le fouille, dans plein de choses qui ne vont pas. Mais tu viens et tu restaures et tu viens nous redonner cette lumière. Merci pour ce chemin que tu nous donnes. Et vraiment, tu puisses conduire encore ce temps avec toi. Parle-nous encore pendant que Philippe nous transmet ce que tu as à cœur à nous dire ce matin. Ouvre nos cœurs. Amen.
J'aimerais méditer avec vous ce matin un passage qui m'a vivement impressionné il y a quelques jours seulement, quand je l'ai lu pendant mon temps de culte personnel. Alors beaucoup des versets que vous allez entendre sont bien connus, ils sont souvent cités, mais je crois que l'ensemble du passage que nous voulons méditer nous réserve des surprises et j'espère des encouragements. Et je demande à Dieu de venir nous stimuler par son Saint-Esprit. Avant de faire la lecture du passage, je vous invite à imaginer la scène. Scène, S-C-E-N-E. Roxane, tout à l'heure, ça marchait quand j'étais près de toi. Ça marche moins maintenant. Merci. Je vous invite à imaginer la scène. S-C-E-N-E. Ça se passe pendant le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples juste avant sa mort. Ils sont réunis, Jésus et ses disciples, les 12, dans une grande pièce à l'étage. Ils sont dans une maison de Jérusalem. Ils ne sont pas assis autour d'une grande table, comme chez nous, comme ce matin, là, quand nous avons pris le petit déjeuner ensemble. Ils ne sont pas réunis autour d'une grande table, comme dans le célèbre tableau de Léonard de Vinci. D'après ce que j'ai compris, ils sont plutôt allongés sur des divans autour d'une table basse, comme dans la culture romaine aussi. Et leurs pieds dépassent à l'extérieur du cercle formé autour de la table basse. Leurs pieds dépassent. Ce qui permet à Jésus de passer de l'un à l'autre pour leur laver les pieds. Ils ne fouillent pas au-dessus d'une table comme un enfant qui joue sous la table, mais il fait le tour sans difficulté pour leur laver les pieds, aux 12. Et après ce geste du lavement des pieds, Jésus va leur parler sur le ton de l'intimité. Il est avec ses plus proches et il va leur parler comme à des intimes. Il va leur parler de sa mort, de son départ, dit-il. Il va leur parler aussi du don de l'esprit et de plein d'autres choses. C'est un dialogue avec des intimes. Dans les dernières heures de sa vie. Un dialogue avec ses plus proches. Et pour ce matin, je vous propose donc de partir à la rencontre de Jésus, mais en toute intimité. On pourrait se demander pourquoi Jean, dont nous allons lire le texte tout à l'heure, pourquoi Jean ne raconte pas ce repas comme Matthieu, Marc et Luc le font. Pourquoi Jean emploie un autre ton, une autre approche? Ah, c'est probablement parce que le récit des trois premiers évangiles était déjà bien connu, un récit déjà bien attesté, depuis plusieurs décennies même. Et ce même récit a même déjà été repris par l'apôtre Paul, en 1 Corinthiens 11, quand Paul institue la scène, ou rappelle la scène aux Corinthiens. Sans doute aussi parce que les trois premiers évangiles, Matthieu, Marc et Luc, reproduisent les discours de Jésus dans une forme assez ramassée, une forme facile à retenir. C'est bref, c'est incisif, c'est court. On veut là qu'on se souvienne de l'essentiel. Mais Jean, lui, à la fin du premier siècle, est arrivé au terme de sa vie. Et il mobilise ses souvenirs pour nous faire entrer dans l'intimité de Jésus, pour nous permettre d'approfondir les choses. C'est le dernier écrit du Nouveau Testament. Alors imaginons que nous sommes présents ce soir-là. Nous sommes dans un pays chaud, au printemps. Ah, pour la chaleur, ça va, on n'a pas trop d'efforts à faire pour se l'imaginer. Et peut-être que tout le monde a transpiré. Peut-être que tout le monde transpire encore. Peut-être que pour un repas de fête, ils ont trouvé des parfums pour alléger un petit peu l'air. Peut-être aussi que l'appétit leur manque. Parce que c'est comme une veillée d'armes. C'est comme une nuit avant la bataille. Ils savent que de grands événements se préparent. C'est électrique, c'est tendu, ils ressentent le danger, ils espèrent une victoire, mais ils ne savent pas dans le détail ce qui va se passer. Alors, des repas de Pâques, ils en ont vécu des dizaines, mais aucun repas de Pâques ne ressemble à celui-ci. Je vous invite à écouter ou à suivre dans vos Bibles une partie des échanges. En Jean 14, les versets 1 à 14.
Jésus dit : Que votre cœur ne se trouble pas, ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Mais vous connaissez le chemin de l'endroit où je me rends. Thomas lui dit : Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient ? Le chemin, répondit Jésus, c'est moi. Parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant déjà, vous le connaissez. Vous l'avez même vu. Philippe intervient. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffira. Et quoi ? Lui répondit Jésus. Après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père demeure en moi et c'est lui qui a accompli ainsi ses propres œuvres. Croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause des œuvres que vous m'avez vues accomplir. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais auprès du Père. Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète encore, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai.
Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Dans la maison du Père, il y a beaucoup de demeures. Dans la maison du Père, il y a beaucoup de demeures. Pourquoi est-ce que Jésus dit cela ? Dans le contexte immédiat, Judas vient d'être démasqué. Il est parti, non sans laisser auprès de ses amis quantité de questions en suspens. Et je crois que Jésus veut rassurer les onze. Il avait parlé de son départ vers un lieu où les disciples ne pouvaient ni le suivre ni le remplacer. Et quand Jésus parlait de son départ, il parlait de sa mort, de son exil, comme il l'avait fait souvent jusqu'ici. Mais cette fois, son départ, sa mort, son exil est imminent. On est à bout touchant. Jésus dit donc que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Il précise qu'il s'en va vers la maison du Père. Pour dire les choses clairement, il va au ciel. Nous l'avons fêté à l'ascension. Les disciples le suivront plus tard au ciel. Même Pierre, qui l'aura renié, le suivra au ciel. Il faut qu'il fasse confiance à Dieu et à Jésus lui-même. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Il y a donc une place pour les onze, avec toutes leurs faiblesses. Et il y a une place pour moi, vermisseau que je suis. Il y a une place pour moi. Il y a une place pour toi. Ce n'est pas réservé à une élite, comme certains le pensent. Je vais vous préparer une place. C'était là un point essentiel pour Jésus. Nous préparer une place. Dans le rite du temple, personne ne pouvait s'approcher de Dieu sans s'être purifié par un lavement rituel. Personne ne pouvait s'approcher de Dieu dans le temple sans être au bénéfice d'un sacrifice offert pour le péché. Les onze savaient pertinemment qu'ils ne pouvaient pas se tenir dans la présence de Dieu sans autre, les doigts dans le nez. Ils avaient besoin de purification. Et Jésus dit que c'est lui-même, qui leur ouvrira la voie, qui leur garantira une place. La lettre aux Hébreux dit que Christ s'est assis dans les cieux à la droite du Dieu majestueux après avoir accompli la purification des péchés. Il l'a fait. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Je vais vous préparer une place. Vous y serez avec moi parce que je veux que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est rassurant pour les onze et c'est rassurant pour nous. Mais c'est un verset si connu que certains s'en servent abusivement. Le verset dit certainement que l'accueil offert par Jésus et par le Père est un accueil large, ample, généreux. Mais à aucun moment ce verset dit que tous les humains iront au paradis. À aucun moment. Ceux qui n'ont pas voulu répondre à l'appel de Dieu dans cette vie-ci
feront face un jour à la confirmation de leur choix. Ils n'iront pas dans une maison qu'ils n'ont pas voulu. Ils n'iront pas dans une maison qu'ils n'ont pas voulu. Je suis moi, le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Encore une phrase connue, encore une promesse à deux tranchants. Pour aller dans la maison du Père, il y a un chemin, il y a un seul chemin. Et ce chemin, c'est Jésus. Je suis moi, le chemin, la vérité et la vie. Alors, ayez foi en moi. Le chemin vers Dieu, le chemin vers Dieu, ce n'est pas une connaissance exacte de la doctrine chrétienne. Ce n'est pas une vie parfaite. Qui en serait capable ? Pas moi, en tout cas. Le chemin vers Dieu, ce n'est pas la puissance de la prière. Le chemin vers Dieu, ce n'est pas une dénomination, ce n'est pas une chapelle. Le chemin vers Dieu, c'est la personne même de Jésus. C'est lui et lui seul. Le chemin, ce n'est même pas la qualité de notre relation avec lui, parce que notre relation avec lui, elle sera toujours lamentablement pauvre. C'est Jésus qui est le chemin. En lui se trouve la lumière et la vie. Il donne la vie à qui il veut. Il est le chemin. Mais le revers de la médaille, c'est la deuxième partie du verset. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Abraham, Moïse, Élie, David n'ont pas connu Jésus. Comment ont-ils pu emprunter ce chemin pour le ciel ? Comment ? C'est qu'ils ont répondu positivement à l'appel de Dieu en leur temps. Ils ont eu confiance en un Dieu qui justifie le pécheur et qui lui pardonne, sans savoir très clairement comment cela se ferait. Mais ils ont eu confiance, ils ont eu la foi. Ayez foi en moi. Avec le temps, les intuitions d'un Abraham sont devenues les certitudes d'un Moïse et les convictions d'un Élie ou d'un David. Dans l'attente plus ou moins précise d'un sauveur qui viendrait un jour, un sauveur dont les contours se précisaient au fur et à mesure de l'histoire de la rédemption. Et par l'action du Saint-Esprit, Abraham, Moïse, Élie, David, ils ont cru. Et pour eux, par Jésus, par anticipation, une place était préparée. Est-ce que cela peut être vrai pour des personnes en dehors du peuple d'Israël ? Ah, la Bible fait référence à quelques-uns, hein ? Melchisédek, Jéthro le Madianite peut-être, Naaman le Syrien sans doute, Job du pays d'Outs, Rahab la prostituée, Ruth la Moabite, et Dieu seul sait combien d'autres. Mes amis, n'ayons jamais honte de dire, ne soyons jamais intimidés de dire, Jésus a dit, ou la Bible dit. Quand un chrétien, une chrétienne affirme que Jésus est le seul chemin vers Dieu, il ne le fait pas par orgueil. Il ne le fait pas parce qu'il pense tout savoir sur tout, ou parce qu'il serait, elle serait dans une démarche sectaire. Quand un chrétien, une chrétienne affirme que Jésus est le seul chemin vers Dieu, il ne fait que reprendre les paroles de Jésus lui-même. Et ensuite, il essaye de faire connaître la personne de Jésus le plus largement possible, auprès comme au loin, avec des paroles et des actes cohérents. Il y a 2000 ans déjà, et encore maintenant, je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Mais il n'y a qu'un seul chemin vers Dieu. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Et peut-être que dans ces 14 versets, c'est la déclaration la plus extraordinaire. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Vous êtes l'un des 11. Vous mangez avec un homme qui est habillé comme vous.
un homme qui a le même accent que vous, un homme qui transpire comme vous, un homme qui mange et qui boit comme vous. Vous l'aimez, vous le respectez, vous le vénérez, vous l'appelez rabbi, maître, seigneur. Mais au-delà de ça, il affirme que le voir, c'est voir le Père. Et il reproche même à Philippe de ne pas l'avoir compris plus tôt. Le voir, c'est voir Dieu. Et le Jésus qui dit ce genre de choses avait également dit « Je suis doux et humble de cœur ». C'est incroyable. Le voir, c'est voir Dieu, dit-il. Si cela se passait chez moi aujourd'hui, j'appellerais la police ou le 144. Et le gars, il se ferait interner d'office immédiatement. Celui qui me voit, voit Dieu. Je suis doux et humble de cœur. En plus, Jésus insiste sur ce thème. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Tant et si bien que ce que Jésus fait, c'est Dieu qui le fait. Ce que Jésus dit, c'est Dieu qui le dit. Ce que Jésus montre, c'est Dieu qui le montre. Jésus avait dit ailleurs que comme Dieu donne la vie à qui il veut, lui, Jésus, donne la vie à qui il veut. Que comme Dieu juge, Jésus juge. Et Jésus va répondre à la prière, comme Dieu répond à la prière. Verset 14, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Et les témoins les plus directs de la vie de Jésus, ceux qui l'ont vu sous toutes les coutures, joyeux, tristes, fatigué, dans un mariage, au bord d'une tombe, en butte à l'hostilité des uns, à la mauvaise foi des autres, ceux qui étaient le plus à même de dire qu'il exagérait ou qu'il était fou, ceux-là l'ont reconnu comme leur Seigneur et leur Dieu. Ils l'ont vu mourir et ils l'ont vu ressusciter. Voilà un paradoxe. Jésus est là, dans cette salle, à l'étage, et il dit qu'il va vers le Père. Ils sont donc deux. Jésus n'est pas le Père, et le Père n'est pas Jésus. Ce n'est pas le Père qui sera crucifié, comme je l'entends parfois. Jésus va prier le Père pour qu'il envoie l'Esprit. Jésus et le Père sont deux, mais quand on voit Jésus, on voit le Père. Si vous voulez voir Dieu, regardez Jésus. Jésus, c'est Dieu. Pas physiquement. On ne va jamais dire que Dieu, le Père éternel et glorieux, est un homme oriental avec le teint hâlé, les yeux bruns et les cheveux bouclés. La similitude avec Dieu, elle n'est pas physique. Elle n'est même pas genrée, elle est dans le caractère, elle est dans ce qui fait la personne. Jésus est Dieu parce qu'il a le même caractère que Dieu. Et au début de son évangile, Jean l'avait déjà annoncé, celui qu'il appelle parole de Dieu était au commencement avec Dieu, il était lui-même Dieu, il est devenu un être humain, il a passé du temps chez nous. Et déjà, les uns l'ont rejeté alors que les autres l'ont accueilli. Quand on dit que Jésus est le Fils de Dieu, cela ne veut pas dire que Dieu s'est entiché de Marie pour lui faire un enfant. Ça veut dire que Jésus est de la même nature que le Père, qu'il le représente, qu'il est la projection de Dieu vers nous. Pas Jésus avec ses intimes comme la projection d'une slide à l'écran. Pas Jésus comme l'hologramme de Jean-Luc Mélenchon, mais Jésus en assumant tout ce qui fait l'humain, tout ce qui fait l'humain, à l'exception du péché, le péché qu'il portera sur lui volontairement pour nous pardonner nos fautes. Nous sommes presque au bout pour ce matin de nos surprises, de déclarations étonnantes de Jésus. J'en souligne une dernière. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est le résumé de cette partie où Jésus affirme que ceux qui croient en lui feront les mêmes œuvres que lui et même des plus grandes. Cette promesse dépend du fait que Jésus s'en va vers le Père et ce sera dit plus tard parce qu'il enverra le Saint-Esprit. Fera les mêmes œuvres que lui et même des plus grandes ? Mais attendez, Jésus il a ressuscité des morts, il a guéri des aveugles. Il a changé l'eau en vin. Il a nourri une foule avec 5 pains et 2 poissons. Et ses disciples feront mieux ? On ne peut pas faire mieux. Ce que Jésus a fait, il l'a fait essentiellement pour les membres du peuple d'Israël sur la terre d'Israël, essentiellement. Mais ses disciples, eux, parcourront la terre entière. Ils feront de nouveaux disciples partout, chez tous les peuples. Et le livre des Actes des Apôtres relatera certains miracles qui ont accompagné cette entreprise. Alors je sais que cela suscite chez beaucoup de chrétiens et de chrétiennes des interrogations, une certaine attente. Nous aussi, nous devrions pouvoir faire marcher des paralysés. Nous aussi, nous devrions pouvoir ressusciter des morts. Et quand cela ne se passe pas comme on le voudrait, eh bien certains se culpabilisent, ou culpabilisent les malades ou les défunts, culpabilisent leur entourage. « Ma sœur, ton mari est mort parce que tu n'avais pas assez de foi. » Je l'ai entendu un jour. Ça se dit parfois. Et c'est l'horreur, l'horreur. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. La promesse, elle semble assez formelle. On adresse sa prière à Jésus, raison pour laquelle on prie au nom de Jésus, en se basant sur l'autorité de Jésus, et la prière est exaucée, dit Jésus. Seulement l'enseignement de la Bible ne traite jamais la prière comme un procédé magique, jamais. Est-ce qu'on utiliserait l'expression « par le nom de Jésus » comme Harry Potter et Hermione utilisent leur formule ? Est-ce qu'on cherche des formules encore plus efficaces que « dans le nom de Jésus » ? Par le nom puissant de Jésus ? Par le sang de Jésus ? Je ne sais quoi encore. Les formules comme ça, c'est du paganisme. C'est du paganisme. Ce que Jésus enseigne, c'est que nos prières vont être exaucées si elles ont comme résultat que la gloire de Dieu soit manifestée par le Fils. Et parfois, la gloire de Dieu, elle se manifeste par le martyr. Et parfois, la grâce de Dieu, elle se manifeste par la mort suite à une longue maladie. Et parfois, la gloire de Dieu, elle se manifeste dans la souffrance d'une perte de santé, d'une perte de conjoint, d'une perte d'emploi. Parfois, la gloire de Dieu, elle se manifeste par la souffrance supportée dans la foi, par un échec qui sera surmonté, parce qu'il ne sera pas un échec à la fin. Parce que cet échec sera la gloire de Dieu le Père. Et nous, à notre niveau, on ne sait pas quel est le plan de Dieu pour nous et pour nos proches. Alors, nous prions tout simplement au nom de Jésus, c'est-à-dire en communion avec Jésus, en étant attachés à Jésus, comme un sarment est attaché au pied de la vigne. Et nous cherchons la gloire de Dieu, pas la nôtre, celle de Dieu. Et parfois, nos prières seront exaucées comme nous les avons dites, comme nous les avons demandées. Pif, paf, ça arrivera comme ça, parce que Dieu est comme ça. Et parfois, Dieu nous amènera à reformuler nos prières selon une meilleure compréhension de ce que Dieu veut. Et notre communion avec Dieu en sortira incroyablement renforcée. Je vais conclure. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, finalement ? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Toutes ces choses-là, elles ont été dites, elles ont été détaillées au cours d'un repas du soir, dans une petite pièce à l'étage, dans une maison de Jérusalem à l'orée du 1er siècle. Jésus le dit à 12 amis. Il y en a un qui va le trahir et qui va mal finir. Tous les autres vont s'enfuir. Pierre, il va le renier. Jacques et Jean, ils se demandent qui est le plus grand. Philippe, il s'étonne de ce que Jésus puisse être Dieu. Et pourtant, Jésus les aime. Et pourtant, Jésus leur dit tant d'autres choses encore. Et surtout, surtout, il leur dit qu'il prépare pour les siens une place au ciel. Il le fera par sa mort et il reviendra de la mort. Est-ce que ça a de l'importance pour nous, ça, d'avoir une place au ciel? Que tout ne se joue pas ici-bas maintenant. En Corinthiens 15, 19 dit que si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. Si vous espérez en Jésus que pour ce que vous vivez maintenant, vous êtes les plus malheureux. Parce que tout votre horizon est absorbé par l'immédiat. Et c'est insatisfaisant au possible. Levez les regards. Levez les regards. Il allait nous préparer une place. Il reviendra nous chercher, qu'il nous reprenne ou qu'il revienne, nous avons une place auprès de lui. Le meilleur reste à venir. Jésus et le Père ont une identité commune. Ce que Dieu fait, Jésus le fait. C'est pour ça qu'on s'appelle chrétien. Pas déiste, pas déen. Chrétien. Ce que Jésus fait, Dieu le fait. Ce que Jésus dit, Dieu le dit. Et puis, croire en Jésus ouvre une mission dans le monde. De très grandes choses vont se passer si nous marchons avec lui. Peut-être amèrement, peut-être pas. J'ai le cœur rempli de joie devant quelques perspectives dont Johan nous parlera lors du colloque du 30 juin. Mais suivre Jésus, ça ouvre des perspectives. Arrêtez de tourner autour de vous-même. Arrêtez de regarder juste à vous, à vos petites joies, à vos petites peines. Ils ont de la valeur pour Jésus, mais ce n'est pas tout. Arrêtez de penser à vous seulement. Mettez un pied après l'autre. Suivez Jésus. Engagez-vous. Vous avez tout à y gagner. Suivre Jésus, c'est suivre Dieu. Alors nous l'aimons. Nous l'aimons. Nous voulons garder ses commandements. Nous voulons le faire connaître. Nous voulons prolonger son action. Parce que nous goûtons à un peu d'intimité avec lui. Qu'il vous bénisse. Amen.
sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi.
Et me voici boulouée, me voici à tes pieds. Me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grande, tout en toi est merveilleux pour moi.
Vous pouvez dire ces paroles. Si vous pouvez les murmurer, même dans l'hésitation, c'est fort hein, ce qu'on chante. Eh bien, je vous invite à vous approcher de la table de communion. Si Jésus-Christ est votre sauveur, si vous lui aviez confié votre vie, approchez-vous de la table de communion. Souvenez-vous, souvenons-nous ensemble qu'il a déposé sa vie pour nous sauver. C'est le sens de ce pain, de ce vin. Parce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il a été livré, prit du pain, le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps, il est donné pour vous. » Puis après, il a pris une coupe, il l'a présentée à ses disciples en disant « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Prenez, buvez. » Buvez-en tous. La prochaine fois que nous le ferons, ça sera là-haut. Parce que je vais vous préparer une place. Alors je vous invite, si vous pouvez confesser que Jésus est votre sauveur, à vous approcher, à prendre ce morceau de pain, cette petite coupe de vin ou de jus de raisin, c'est au milieu le jus de raisin, à le manger, à le croquer, à l'avaler en vous souvenant que Jésus est votre sauveur, qu'il habite en vous. Et puis si vous n'êtes pas tout à fait au clair avec ça, c'est pas grave. Enfin, si c'est grave. Si c'est grave. Mais peut-être ne vous approchez pas ou pas ce matin. Et puis venez d'abord nous parler, voilà, à Célina ou moi, un des membres du conseil, quelqu'un de l'équipe musicale, de l'équipe technique. Venez vous parler, on aura de quoi dire sur ce Jésus qui nous aime et qui vous aime. Mais pour l'instant, partageons le repas de communion. Et je vous invite à vous approcher, on va le faire à la bonne franquette, en toute intimité. On commence par les rangs du fond, on termine par les rangs de devant. Il y a trois corbeilles, trois plateaux. Et puis vous prenez un peu de pain, un peu de vin, mangez ici ou à votre place. Et puis on finira tout à l'heure en disant le Notre Père. Je vous invite à vous approcher. Tout est prêt. Nous allons dire ensemble, en nous tenant debout, la prière que le Seigneur nous a laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et nous chantons en guise de bénédiction, en chant de bénédiction. N'oubliez pas les tresses à la sortie, n'oubliez pas non plus le colloque qui se tiendra jeudi 30, ici même à 20h15. Chant de bénédiction, on peut se dire ces paroles à nous, on peut les souhaiter à d'autres, nos voisins, nos amis, les membres de notre famille. Allez dans cette nouvelle semaine dans la paix et dans la joie du Seigneur Jésus. Bonne semaine.
Thank you.